Bonsoir. Le bilan de l'accord cadre d'Addis Abeba 6 mois après sa signature est globalement satisfaisant. Affirmation de François Mwamba, coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Selon lui, des avancées remarquables ont été enregistrées dans la mise en œuvre de cet accord, mais signale que les États voisins n'ont pas respecté jusqu'ici leur engagement. Quelle analyse faire de cette déclaration? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 2 septembre 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats François Mwamba, coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Dans ce studio avec moi, l'honorable Juvénal Mounoubo. Il est député national de l'UNC, parti de l'opposition. Il est aussi rapporteur de la sous-commission Force armée de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Honorable Juvénal, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Lui également n'est pas encore en ligne, mais vos auditeurs, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Maître Boilo Kabula au barreau de Lubumbashi au Katanga. Pour ma part, la position de François Mwamba est objective en ce sens que la matière sur laquelle devaient porter les négociations de Kampala étant épuisée, il y a lieu d'inviter les pays de la région des Grands Lacs signataires de l'accord d'Addis Abeba de s'abstenir à apporter un quelconque soutien aux forces négatives. Ici, je cite le Rwanda et l'Ouganda dont l'attitude pourrait conduire à l'escalade de la violence dans la région. Je demanderai à ces pays de suivre les schémas qui cotaient pour pacifier la région. Chef des travaux Jean-Bernard Mibeko dit ceci, la déclaration de François Mwamba est tout simplement de l'autosatisfaction. Nous devons voir les choses en face sans se détourner de la réalité. S'il y avait vraiment des avancées, nous n'allions pas vivre ce qui se passe aujourd'hui à Goma. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ne veulent pas lâcher. Il faut que nous continuions la pression sur tous les plans. Merci de nous suivre partenaires d'ici sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiokapi.net.
Le coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba en RDC affirme que l'application de cet accord 6 mois après sa signature est globalement satisfaisante. François Mwamba l'a dit au journaliste samedi dernier à Kinshasa. Il explique des avancées remarquables enregistrées dans la mise en œuvre de cet accord, mais signale tout de même qu'à ce stade, ce sont les États voisins qui ne respectent pas leurs engagements. On l'écoute au micro de Donna Madimba.
Au niveau international, nous avons beaucoup de satisfaction. Je peux citer très rapidement deux exemples. On voit très bien qu'au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit en juillet avec les États-Unis, que ça soit là il y a quelques jours, encore 2-3 jours, avec la France, on voit bien que le Conseil de sécurité, le secrétaire général lui-même d'ailleurs, reste très mobilisé et ne se laisse pas distraire par des prétextes développés très souvent, notamment par le Rwanda. Deuxième exemple, c'est par rapport à l'aspect Banque mondiale. On a parlé d'un milliard pour rendre la paix plus rentable que la guerre. Et bon, c'est une réalité. Sur le plan national, nous sommes bien partis. Tout ce qui devait être fait pour redonner, aguerrir notre armée est en train d'être fait. Le gros problème, c'est au niveau régional. Nous avons l'impression qu'un certain nombre d'acteurs importants qui ont signé les engagements à Addis Abeba dans le cadre de la région ne se sentent plus concernés par leur signature.
C'était là François Mwamba, coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui n'est pas encore en ligne, va nous rejoindre dans un tout petit moment, je voulais dire. Honorable Juvénal Mounoubo, je rappelle que vous êtes député national de l'UNC, parti politique de l'opposition. Vous êtes aussi rapporteur de la sous-commission Forces armées de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration de François Mwamba qui estime que l'accord cadre d'Addis Abeba, l'application de cet accord 6 mois après sa signature est globalement satisfaisante?
Je ne suis pas malheureusement de l'avis de M. François Mwamba. Pourquoi ? Parce que lui, il dit que l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est une application globalement satisfaisante. C'est lui qui le dit, ce sont ses propres mots. Mais moi, je pourrais parler plutôt d'un bilan mitigé. C'est en tout cas un bilan discutable. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas dire et convaincre cet habitant de Goma qui a vu des obis tomber, des tirs d'obis sur la ville, lui dire que non, l'application de l'accord est globalement satisfaisante. Donc, je crois qu'il faut être réservé, il faut nuancer. Et puis, il faut savoir que l'accord cadre d'Addis Abeba, il n'y a pas que la guerre qui est actuellement au Nord Kivu qui devrait être réglée. Il y a d'autres questions, c'est ce qu'on semble oublier. Il y a des questions de développement, il y a des questions d'intégration régionale, des questions de relance de la CPGL. On ne peut pas réduire ça au seul climat d'insécurité qui règne en province. Donc sur le plan sécuritaire, je ne dirais pas qu'il y a des avancées très considérables. Je remercie et félicite ici nos éléments de FARDC qui se défendent très bien sur le front. C'est en partie grâce à tous les rappels, aux conseils que nous avions donnés, même au niveau de notre commission. Nous cessions chaque fois en fait de réclamer l'amélioration des conditions de vie des militaires. Donc, je crois qu'il faut les encourager, mais dire que c'est globalement satisfaisant.
Mais ce qui avait été demandé au gouvernement congolais, est-ce que ce n'est pas satisfaisant 6 mois après, par exemple, continuer à approfondir la réforme du secteur des sécurités, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police? Vous l'avez dit vous-même, il y a des avancées quand même. Pour cela.
Moi, je ne peux pas considérer, puisque les militaires se défendent bien sur le front, je ne peux pas dire que là-bas, la réforme a été accélérée, des FARDC. Vous savez, il manque la loi de programmation militaire au Congo, une loi de planification triennale ou quinquennale, parce qu'on ne peut pas gérer l'armée simplement avec un budget annuel. Je suis rapporteur de la sous-commission Forces armées. Je vous dis que ça manque, ça. Il n'y a pas un document qui définit, par exemple, clairement la vision de ce que nous voulons avoir comme armée. L'autorité de l'État en territoire de Walikale, c'est pas plus de 25% l'espace contrôlé par l'État où l'administratrice du territoire peut aller faire des supervisions.
Donc vous voulez dire qu'on ne sent pas, c'est par rapport à la sécurité, on ne sent pas cette réforme au niveau de l'armée et de la police, hein?
Bien sûr, mais les engagements de la RDC, lorsque vous lisez l'accord cadre, il n'y a pas que l'autorité de l'État, il n'y a pas que la réforme du secteur de sécurité, il y a aussi le développement économique. L'expansion des infrastructures, des fournitures, des services sociaux de base. Mais lorsque vous voyez des
écoles... Est-ce que ça n'a pas été fait?
Non, mais je ne sais pas, à partir de la signature de l'accord, quelles sont les écoles qui ont été construites dans les zones de conflit à l'Est? Il y a des écoles, moi je vous dis, il n'y a pas que Kawalikal et partout ailleurs, il y a des écoles, quand il menace de pleuvoir, c'est fini. L'enseignant arrête les cours. Il y a des centres de santé, il y a des villages pour retrouver un centre de santé, eh bien il faut parcourir 60 kilomètres. Et il y a des mamans qui meurent, des mamans qui doivent allaiter. Alors, est-ce qu'il faut dire que c'est globalement satisfaisant? C'est là où il faut avoir une lecture globale. Il ne faut pas se limiter à un seul point et il ne faut pas considérer les progrès enregistrés par nos éléments des FARDC et prendre ça et considérer que c'est ça, tout s'est réduit à ça. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement devrait faire dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba.
Merci honorable Juvenal Munubo. La réalisation me signale que M. François Mwamba est en ligne. M. Mwamba, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Alors, vous avez affirmé que l'application de cet accord 6 mois après sa signature est globalement satisfaisante. Sur quels éléments vous vous basez pour faire cette affirmation?
L'élément le plus important, vous savez, c'est ce premier engagement qui stipule que nous puissions accélérer les réformes nécessaires pour faire de notre armée un instrument réellement républicain, un instrument de défense nationale et de la protection des biens et des personnes dans notre pays. Il est suggéré également que ce faisant, compte tenu de ce que nous sommes, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, nous puissions également, de ce point de vue, jouer un rôle stabilisateur, un rôle de paix au niveau de l'ensemble de la région. Donc, le mécanisme de suivi que j'ai l'honneur de coordonner constate que sur ce terrain-là, grâce aux réformes qui sont en cours, tout le monde peut constater, par exemple, l'embellie que nous avons dans le comportement en termes des combativités, des disciplines et de notre armée, notamment, malheureusement, par rapport à cette agression que nous subissions dans l'Est.
Alors, l'honorable Munubo estime qu'on ne sent pas cette réforme de l'armée.
Excusez-moi, parce que je n'étais pas en ligne. Vous
oui,
dites?
Justement, par rapport à la réforme de l'armée, nous sommes avec l'honorable Juvenal Mounoubou, qui est rapporteur de la sous-commission Forces armées de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, qui estime qu'on ne sent pas cette réforme de l'armée.
Malheureusement, vous sortez très mal. Je n'entends pas la fin. Il dit que quoi?
Il estime qu'on ne sent pas...
La réforme de l'armée?
Oui, on ne sent pas cette réforme de l'armée.
Ah, on ne sent pas?
Ouais.
Ah oui, mais qu'il aille poser la question à nos populations qui souffrent terriblement et qui sont sous le joug de l'occupation depuis le mois d'avril 2012, qu'il aille poser cette question à ces gens-là, hein, qui tous les jours ici, et d'ailleurs il y a eu pas mal de manifestations, notamment dans le Nord Kivu, à Goma et tout ça, etc., pour effectivement inciter, galvaniser cette combativité à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Non, je pense que tout esprit équilibré, tout esprit honnête doit pouvoir constater, hein, parce que tout le monde le constate à l'extérieur, à l'intérieur et tout ça, etc., que s'agissant de la situation de notre armée, de nos forces armées, nous sommes en une situation aujourd'hui, au mois d'août 2013, bien meilleure que ça n'était le cas en avril 2012 lorsque nous sommes agressés. Donc je n'ai pas besoin de faire des démonstrations là-dessus. Je pense que ce sont des choses qui se constatent.
Ça
reste fragile. Il ne s'agit pas pour autant que nous considérions qu'il faille dormir sur ses lauriers. Ça reste fragile et de toute façon encore insuffisant, parce que nous n'avons pas, notamment dans l'Est, affaire à une mutinerie, à quelque chose d'intérieur. Nous sommes victimes malheureusement d'une agression qui vient de pays étrangers. Et s'agissant de faire face à ce type-là de menaces, nous avons encore, il est vrai, beaucoup de travail à faire. Mais il ne serait pas honnête de ne pas reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été faits et que ces efforts commencent.
Et à part l'armée, Monsieur Mwamba, à part la réforme de l'armée qui a commencé, comme vous dites, qu'est-ce qui vous pousse encore à dire que la RDC a respecté ses engagements? Il y en a plusieurs quand même, par exemple, consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Est-ce que l'autorité de l'État a été restaurée?
Non, mais vous voyez bien que les choses sont liées. Restaurer l'autorité de l'État, c'est mettre non seulement nos forces armées, mais également notre police en situation de pouvoir effectivement, j'allais presque dire imposer cette autorité de l'État, évidemment par des moyens démocratiques. Notre police, effectivement, et d'ailleurs c'est un secteur en termes de réforme qui est donné maintenant un exemple. Nous sommes très avancés, la République du Congo est très avancée dans les réformes concernant la police nationale, mais on peut également indiquer que dans les autres domaines, notamment celui du renforcement donc de la démocratie, il a été mis en place une nouvelle CENI. Cette nouvelle CENI a un visage beaucoup plus équilibré que ça n'était le cas par le passé. L'opposition est bien représentée, la femme est bien représentée, les hommes et les femmes qui ont été désignés, chacun pour ce qui les concerne, sont des personnalités qui donnent effectivement à cette institution maintenant un visage qui permet d'espérer que, par rapport aux problèmes que nous avons eus par le passé, cette fois-ci les choses, quand je dis les choses, je parle des élections à venir, se passeraient dans de meilleures conditions. Je peux continuer comme ça à énumérer.
Mais Monsieur François Mamba,
globalement,
je vais vous donner la parole au nom.
Je vais vous donner la parole. Parce que dans tous les domaines concernés par nos engagements pris à Addis Abeba, il commence à y avoir de l'embellie. Nous commençons à avancer. Je le répète, ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer que tout est fait, que tout est rose. Tel n'est pas mon propos. Je voulais simplement indiquer que si nous partons du mois de février où cet accord est signé, comparé à ce que nous sommes aujourd'hui au mois de d'août, nous notons, parce que c'est notre travail de monitorer, que les différents ministères, les différents responsables qui ont en charge les réformes dans les différents domaines font leur travail. Il y a des difficultés, y compris dans l'armée d'ailleurs. Vous savez que nous avons l'ambition hein, de pouvoir mettre en place une force de réaction rapide pour remplacer d'ici un an cette brigade internationale qui est à Goma et tout ça, etc. On a quelques difficultés dans la formulation, dans le montage de cet instrument-là. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout va bien partout, mais je suis en train de
faire
observer à la nation que, à partir du moment où nous prenons la bonne direction, je pense que, en tant que patriotes, nous devons pouvoir soutenir notre gouvernement, soutenir les initiatives du président de la République et faire en sorte que nous allions plus loin et plus vite. Et c'est de cette façon que nous serons respectés.
Merci.
Et si nous sommes respectés, il n'y aura plus de guerre. S'il n'y a pas de guerre, nous pourrons alors plus facilement et plus profondément parler des questions économiques.
Merci, Monsieur Mwamba.
Qui intéressent la population.
Merci, Monsieur Mwamba. Honorable Juvenal Munubo, vous vouliez réagir. Hein?
En fait, Kelly, vous avez vu les difficultés qu'avait Monsieur François Mwamba à pouvoir dégager un bilan, dresser un bilan des engagements de la RDC souscrits dans l'accord cadre de l'Addis Abeba. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un plan de mise en œuvre. Lorsque vous lisez l'ordonnance qui crée la structure dont il est le coordonnateur, eh bien, il devait produire un plan de mise en œuvre. Et c'est justement dans les plans de mise en œuvre qu'on doit lister les engagements et indiquer les degrés d'avancement de chaque engagement et d'être finalement à mesure de dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, faute de ces documents-là, sous forme de gouvernail ou de feuilles de route, c'était difficile de dégager un bilan. Raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié la question, c'est sur base de quoi? Hein, quels sont les indicateurs qui les poussent à dire que c'est globalement satisfaisant? Hein, pourquoi? Parce que les souffrances continuent, comme je le disais, les bombes continuent, puisque l'accord cadre, ce n'est pas que la question de l'armée, du reste qui...
Il a parlé aussi de la démocratie,
bien sûr, mais il y a des infrastructures. Il y a des infrastructures. La CENI ne figure pas expressis verbis dans l'accord cadre, parce qu'il faut, interpréter les textes tels qu'ils se présentent. Ici, on parle de la réforme du secteur de sécurité. On parle de l'autorité de l'État, du développement économique. On parle de réformes structurelles, de finances publiques. Est-ce qu'il y a des mesures courageuses de lutter contre la corruption, l'évasion fiscale? C'est tout ce qu'il faut vérifier. Les infrastructures, depuis la signature de l'accord cadre, quelles sont les infrastructures qui ont été construites ou réhabilitées? Je dois vous dire en passant, par exemple, que la route qui relie Walikale et Massis et Goma, c'est dans un état très délabré. Et pourtant, c'est une route de grande importance. Alors, je ne sais pas des avancées, c'est sur base de quoi? Là, c'est sur le plan interne. Mais je ne dis pas que sur le plan sous-régional, ça a été respecté. Je ne le dirai pas. Pourquoi? Parce que il y a des obligations à ce niveau ici. Le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la RDC. Hein? Lorsque les Nations Unies, le Conseil de sécurité a indiqué encore une fois les cas d'infiltration, eh bien, il y allait de se poser la question si nos voisins aussi ont respecté. Alors, il y a des engagements, par exemple, sur le plan international. La revitalisation de la CPGL. Est-ce que ça a été fait? Il faut voir tout ça. Les mandats robustes pour la MONUSCO, c'est vrai. On se félicite quand même de la présence de la brigade d'intervention. Mais nous voulons que cette brigade agisse un peu comme l'Artemis. Parce que quand l'Artemis est arrivée, l'Artemis a eu les soutiens de pays de la sous-région. Il faut un consensus qui est le gage de la réussite de l'action de la brigade. Il faut un consensus.
Et donc vous estimez que la RDC doit faire pression pour que tout cela soit respecté par les pays signataires qui ne respectent pas cet accord?
C'est là où notre diplomatie doit se montrer davantage proactive, efficace, dynamique. Et je crois qu'il faut être réservé, il faut plutôt travailler, il faut plutôt améliorer. Mais pas faire des annonces à la presse que c'est globalement satisfaisant, c'est des avancées remarquables, c'est un peu du triomphalisme. Pourquoi? Parce que le travail à faire est encore grand et il faut le faire.
Il y a par exemple les
cellules. Hein, vous savez, dans le mécanisme national de suivi, c'est prévu la création de 7 cellules. Hein, des cellules, cellules RSS, cellules autorité de l'État, décentralisation, réforme structurelle, lutte contre l'impunité. Et M. François Mwamba pourra nous dire si tout ça est déjà fait. Hein? Il y a beaucoup de choses. Le conseil consultatif. Vous savez que dans les mécanismes que coordonne M. François Mwamba, il devrait y avoir un espace de dialogue et d'échange avec les forces vives de la nation sur la mise en œuvre de l'accord cadre. Et si ces conseils travaillaient, ces conseils pourraient apporter des inputs nécessaires pour un dialogue national.
Alors, il va vous répondre, Monsieur François Mwamba, mais d'abord, je vais passer la parole au professeur Moïla Chiembe. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, quelle est votre lecture par rapport à cette déclaration du coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui affirme que l'application de cet accord, 6 mois après sa signature, est globalement satisfaisante?
Disons que si on doit être objectif, il faut dire que le verre est à moitié plein et à moitié vide. Pour être objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelques points positifs qui peuvent être relevés. Par exemple, il est indéniable que la diplomatie congolaise, une fois n'est pas coutume, s'est déployée avec beaucoup d'efficacité, non seulement auprès du Conseil de sécurité, comme Monsieur Mwamba l'a fait remarquer, mais aujourd'hui, incontestablement, le Rwanda est isolé, non seulement au niveau global du Conseil de sécurité, mais également dans la région. Le fait que le gouvernement congolais a mobilisé au sein de l'Union africaine, au sein de pays de la région, c'est-à-dire de la région de Grand Lac, autour, comme on l'a vu avec la dernière réunion avec l'Afrique du Sud et l'Angola, fait que, une fois n'est pas coutume, le Rwanda est totalement isolé, mais attention, la bête n'est pas encore morte. C'est vrai que le Rwanda est isolé aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement congolais a les moyens, se donne-t-il les moyens de capitaliser pour aller au-delà de l'isolement, c'est-à-dire de changer des alliances? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Rwanda et d'une certaine manière l'Ouganda arnaque la République démocratique du Congo? C'est parce qu'ils ont soutenu les États-Unis. Or, la République démocratique du Congo est seule. C'est bien beau d'isoler le Rwanda, mais le deuxième cap serait que la République démocratique du Congo, reprenant en force sa diplomatie, convainque les grands, notamment les pays membres du Conseil de sécurité, d'être dans une alliance de fait ou de droit avec elle pour s'assurer effectivement d'un soutien indéfectible en droit. Donc ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point positif, c'est que sur le plan, non pas du gouvernement congolais, mais de la communauté internationale, cette brigade, Dieu sait combien beaucoup de Congolais en ont ricolé, mais on a vu il y a quelques jours, après que, peut-être maladroitement, la MONUSCO ait lancé l'ultimatum et l'ait retiré par la suite, mais le soutien de la brigade au FARDC, qu'il faut féliciter là aussi, une fois n'est pas coutume, Dieu sait combien les FARDC ont été la risée de la terre entière en se disant mais pourquoi les Congolais ne se battent pas? Une armée de plus de 200 000 personnes ne peut même pas faire face une journée ou une semaine de combat devant 3 000 individus. Mais cette armée remobilisée, équipée, entraînée, tout n'est pas encore rose, a dû se battre. Tous les Congolais à travers le monde, ici où nous sommes, tout le monde a vu que cette armée peut se battre. Encore faut-il lui doter des armes nécessaires, lui donner une stratégie, et cela est possible. Alors, quant à ce qui concerne le bilan proprement dit, Monsieur Mwamba, dans la mesure où on n'a pas la feuille de route programmatique de ce qui était prévu par la mise en œuvre du gouvernement congolais, on n'a pas les outils nécessaires, les indicateurs objectif pour apprécier ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. On connaît le point qui était indiqué que le député à côté de vous a dû rappeler. Mais sur ce point, il y a des choses qui avaient été commencées avant. Bien sûr, sur la réforme de l'armée, vaille que vaille, le texte est sorti. Sur l'armée, ça va, sur la police, ça va encore, c'est encore plus visible sur la police que sur le secteur de sécurité, donc de l'armée, même s'il y a déjà des textes. Bon, là aussi, ça n'a pas commencé maintenant, mais on peut dire que c'est un point positif, parce qu'au moins, les textes juridiques existent déjà, il reste à les mettre en œuvre. Mais, madame, savez-vous que ce dont nous parlons, un accord international, c'est un acte de volonté des États, ce n'est pas un programme de gouvernement. Donc, l'accord ne peut être appliqué que si les États signataires s'engagent à l'appliquer. Or, ce qu'on demande au gouvernement congolais, en gros, tout est déjà dans les tuyaux, que ce soit la décentralisation, l'autorité de l'État, mais c'est l'objet, entre autres, si on regarde bien le contenu de l'ordonnance présidentielle sur les concertations, on peut présumer que ces points-là seront finalisées par les concertations qui recoupent à peu de choses près le point prévu ici dans l'accord. Donc on ne peut pas désespérer, bien court comme dirait un Français, mais on peut espérer que ce que le gouvernement n'a pas pu spontanément faire, les concertations pourront le faire et faire aboutir un projet qui permette effectivement de voir que le gouvernement est à point sur le sujet. Mais le point noir, c'est réellement la contribution des pays de la région qui ont signé. Vous avez vu, madame, la tentative du Rwanda d'ailleurs de d'empêcher ces négociations de Kampala qui à ce jour sont au point mort, et à force de vouloir empêcher le M23 à signer un accord avec le gouvernement congolais, où est-ce qu'on en est? Le Rwanda vient de tenter une parade en infiltrant même ses propres soldats afin de précipiter cette brigade qui monte encore en puissance.
Merci, professeur.
Avec l'objectif soit de la faire défier, c'est-à-dire éviter peut-être que la brigade qui n'est pas encore au point ne se batte pas, pour créer la révolte auprès des Congolais. On avait vu déjà les populations du Kivu manifester la France, même courir le risque de voir la MONUSCO molestée au motif que la brigade...
Merci, professeur.
Il y a quelques motifs de satisfaction, mais il ne faut pas crier victoire, on est encore au milieu du guet.
Merci, professeur Moïla Tchimbe. Monsieur François Mambo va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Maître Francis Do Joseph Gonzemba Lokombe, depuis Kinshasa, commune de Ngaliema. Le propre du Congolais, c'est l'indifférence face à la souffrance des autres. L'accord cadre est devenu un chiffon de papier devant le Rwanda et l'Ouganda qui soutiennent, hébergent et accompagnent le M23 en hommes et en stratégie alors que cela a été interdit par l'accord cadre. Pendant que nous attendions de M. François Mwamba un rapport accablant qui ira dans le sens d'interpeller l'ONU et les autres pays de la région sur la non-application par le Rwanda et l'Ouganda du dit accord cadre, grande a été notre déception face à un bilan qui ne reflète aucune réalité sur terrain.
Réaction M. François Mwamba.
Non, mais c'est un mauvais procès. Je salue la personne qui vient d'intervenir et qui ne m'a pas suivi, ou alors d'une manière totalement partiale ou partielle. Je n'ai jamais tenu de propos triomphalistes. J'ai indiqué que l'accord cadre comporte trois volets. Le volet international, volet régional et volet national. J'ai indiqué en ce qui concerne le volet national, comme je venais de le dire, que nous sommes sur la bonne voie sur base de quoi? Sur base des états des lieux. C'est le point de départ si l'on veut effectivement faire une évaluation qui tienne la route. Les états des lieux, à comparer, j'ai indiqué, à la situation qui était celle de notre pays, puisqu'il s'agit quand même ici, en même temps de ne pas oublier ce qui est en train de se passer dans l'Est. Nous avons été agressés au mois d'avril l'année dernière. Aujourd'hui, quand on regarde au fond des yeux la République du Congo dans tous les domaines concernés par les engagements que nous avons pris dans l'accord 4, je parle d'état des lieux, si nous comparons ces états des lieux à la situation de notre pays il y a un peu plus d'un an, il est clair que des efforts, je dis bien des efforts, ont été fournis, que nous sommes sur la bonne voie, que pour autant, je le répète, il ne faut pas dormir sur ses lauriers et qu'il reste beaucoup à faire parce qu'un pays comme le nôtre doit pouvoir non seulement nourrir sa population, non seulement contribuer à la paix au niveau de la région, mais c'est un pays duquel on attend beaucoup au niveau mondial, un peu comme le cas de la Chine et autres. J'ai indiqué dans mon propos, madame, lorsque je fais mon point de presse, qu'au niveau international, là aussi, nous avons des grandes satisfactions. Le prof qui vient de parler, je les salue, hein, a fait une intervention absolument honnête que je partage totalement. Au niveau international, en effet, il a été demandé de rester vigilant et d'accompagner la République du Congo et la région dans la recherche de la paix. Ce qui se passe au niveau du Conseil de sécurité, ce qui se passe au niveau de la SADC, ce qui se passe, même si c'est avec des difficultés, c'est vrai qu'il y a l'Ouganda et le Rwanda là-dedans, au niveau de la CIRGL, il y a encore une réunion qui est prévue cette semaine, sont autant d'indications qui montrent que les dossiers République démocratique du Congo restent inscrits à l'agenda international et ce n'est pas rien. Il y a des pays qui souffrent parfois même plus que nous et dont on ne parle plus jamais. J'ai indiqué de la manière la plus claire, et je m'adresse en particulier à la personne qui a posé la question en dernier. J'ai indiqué très clairement que la plus grosse déception du point de vue de ce constat concerne les engagements au niveau de la raison. Où nous avons l'impression, ce sont mes termes que j'ai utilisés, que certains signataires importants de cet accord donnent l'impression aujourd'hui d'avoir oublié leur propre signature. Peut-on être plus clair et plus, fort dans la condamnation? Ce qui se passe avec toutes ces infiltrations dont on parle, avec ces appuis incessants, maintes fois condamnés, je parlais des Nations Unies, mais également des pays comme les Nations Unies, regardez il y a encore 3-4 jours ce que la France a fait pour nous, dans notre dossier au Conseil de sécurité, tout ceci montre effectivement qu'il y a un problème dans notre région. Excusez-moi, madame, c'est très important parce que si nous ne prenons pas le temps d'expliquer les choses, on se retrouve avec des questions comme celles que je viens d'entendre.
Il y a 3 invités dans cette émission, donc on a un chrono devant
nous. Je voudrais terminer, madame, très rapidement sur la feuille de route, qui est un document absolument indispensable, mais un document qui se construit parce que l'interlocuteur qui est intervenu sur ce sujet semblait tantôt parler de notre travail au point de départ et la minute après il s'est projeté par rapport à ce que nous aurons fait dans un an ou dans 2 ans si le travail notre mandat était prolongé. Non, la feuille de route ce n'est pas quelque chose que vous construisez dans votre bureau enfermé en quelques jours. C'est un document non seulement important mais dynamique. Il vous faut être en contact avec les acteurs au niveau de ceux qui font les réformes, et cela, nous le faisons, je venais d'indiquer les états des lieux, il vous faut être en contact avec les forces vives, il vous faut être en contact avec les bailleurs, avec tous ceux qui interviennent dans la chaîne, de manière à pouvoir effectivement, d'une manière mesurable, ce sont les indicateurs, mais aussi avec un chronogramme, c'est ainsi qu'on arrive à la feuille de route. Ce travail est en train de se faire, ça ne peut pas se faire en un jour, et que donc on ne peut pas commencer à nous faire un procès comme si nous étions là depuis un an. Voilà ce que j'allais dire.
Merci, monsieur Mwamba. Honorable Mounou, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud-Kivu.
Édite Ndilonge à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. À mon avis, il est temps de croire que c'est trop tôt de juger satisfaisant le village d'Addis Abeba. Car parmi ces recommandations, se trouve l'organisation d'un dialogue inclusif entre les Congolais qui divise la classe politique aujourd'hui.
Réaction.
Oui, est-ce que ce qui est organisé, ce qui a été convoqué pour les 4, est-ce que c'est un dialogue inclusif, comme le dit l'auditeur? Je pense que ça n'a rien de dialogue. Comme on l'appelle d'ailleurs concertation et que nous pensons
pourquoi tout
que
le monde a été invité.
Nous on n'a pas été invité, ça je
vous
dois
vous
le dire.
Vous avez boycotté.
Vous savez que l'exclusion dans cette affaire a commencé depuis les consultations préliminaires que le président de l'Assemblée nationale tenait à l'Assemblée nationale. Il y a des grandes formations politiques comme l'UDPS, comme l'UNC qui n'ont pas été conviées. Et puis on n'a pas mis sur pied à temps une commission mixte préparatoire. Et puis les engagements. Il y a des engagements, il y a des textes qui existent et qui devraient nous servir d'inspiration dans ces processus. Il y a la résolution 2098, il y a l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais quelle est la place qu'on réserve à la communauté internationale? Je ne dis pas ici que la communauté internationale devrait jouer la tutelle, non, ou le rôle de tutelle. Mais il est dit, lorsque vous lisez les dispositions pertinentes de la résolution 2098, si vous lisez par exemple le point 14b, je vais vous lire ces points. Promouvoir. Ici, il est demandé au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, s'acquitter au moyen de ses bons offices à promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation des élections provinciales et locales crédibles et transparentes. On parle aussi de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Lorsque vous lisez le même texte, au point 4, page 5, invite le Conseil de sécurité, invite l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, nouvellement nommé, en collaboration avec le représentant spécial, de diriger, de coordonner. Diriger, ça veut dire diriger. Diriger, coordonner, évaluer la mise en œuvre des engagements nationaux et régionaux. conduire, c'est des verbes qui ont tout leur sens, conduire un processus politique global ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit. Donc la communauté internationale, il ne devrait pas se présenter comme de simples invités à l'ouverture des concertations nationales. Que nous avons voulu d'ailleurs que ce soit un dialogue et pas simplement des concertations. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai malaise dans ce pays. Un malaise constaté dans la classe politique après les élections de novembre 2011 et l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, le président Vital Kamerhe était parmi les premiers à sonner l'alarme, à alerter que ça valait la peine que les acteurs politiques de la majorité de l'opposition, les acteurs sociaux se retrouvent pour décrisper les climats politiques tendus. Et on ne devrait pas mener ces processus au départ dans l'exclusion. Et on ne devrait pas se précipiter à ouvrir, ou je veux dire ici, à fixer une date de concertation ou de dialogue sans s'assurer que ce dialogue sera inclusif. À quoi ça sert un dialogue par après qu'il y ait des contestations, hein? Un dialogue, d'ailleurs, il faut savoir que c'est sur un fond de beaucoup de doutes, parce qu'il y a des annonces. On nous annonce la constitution ou la sortie d'un gouvernement ou d'un programme minimum d'un gouvernement qui ressemble à un gouvernement d'union nationale. Hein? Il y a des doutes, il y a des craintes par rapport à la révision de la constitution. Est-ce qu'ils peuvent nous rassurer qu'avant la fin des concertations, il y aura une résolution claire que la constitution ne sera pas révisée?
Mais pourquoi? Il faut être dedans, il faut participer à ces concertations.
En politique, on ne s'embarque pas dans une aventure sans garantie. Ça, vous pouvez vérifier. Depuis l'histoire des nations. En politique, au Congo, cela est vrai au Congo comme sur le plan international, on ne s'embarque pas dans un truc, dans une aventure comme ça. Eh bien, il faut des assurances, il faut des garanties au départ, et nous voyons qu'au départ, ça n'a pas été inclusif et on n'a pas rectifié les tirs, malheureusement, on n'a pas corrigé l'ordonnance.
Merci, honorable professeur Moïla. Il y a une réaction pour vous de Mbujimaï, qui vient de Mbujimaï au Kassai Oriental.
J'habite Mbujimaï, dans la commune de Djoulou, province du Kassai oriental. Le bilan de la cadre de Addis Abeba est mitigé parce que la diplomatie congolaise est faible. Les FARDC ne sont pas en mesure de protéger l'intégrité territoriale parce qu'ils sont infiltrés par des étrangers aussi et au vu du pouvoir de Kinshasa. De toutes les négociations, la RDC se présente toujours en position de faiblesse. Le pouvoir de Kinshasa a peur de les États-Unis qui soutiennent ouvertement les Rwanda et l'Ouganda au détriment de la RDC qui a tous les atouts pour diriger la sous-région du Grand Lac.
Alors, excusez-nous pour la qualité du son, professeur. Est-ce que vous avez compris la réaction de cet auditeur?
Écoutez, madame, je n'ai pas bien compris.
Alors, il dit... Alors, il dit le bilan de l'accord...
Je sais ce que vous avez entendu.
D'accord, il dit le bilan de l'accord cadre d'Addis Abeba est mitigé parce que la diplomatie congolaise est faible. Les FARDC ne sont pas en mesure de protéger l'intégrité territoriale parce qu'étant infiltrés au su et au vu du pouvoir de Kinshasa, de toutes les négociations, la RDC se présente toujours en position de faiblesse.
Non, je pense que notre interlocuteur de Mbujimaï, peut-être qu'il a bien sûr le droit d'avoir son opinion, mais la diplomatie congolaise ne s'était jamais mieux portée que dans cette crise depuis qu'elle a commencé. C'est pour la première fois qu'on peut voir un gouvernement mobilisé, une diplomatie qui ratisse dans tous les endroits où les adversaires du Congo avait plus de place que le Congo. Vous savez, madame, il y a quelques années, c'est la diplomatie rwandaise qui faisait feu de tout bois et non pas la diplomatie congolaise. Donc on ne peut pas dire à l'état actuel des choses que la diplomatie congolaise a perdu son mordant dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais quant au FARDC, bien entendu, ce n'est pas un accord international qui crée une armée. Le FARDC, c'est l'affaire des Congolais. Nous n'avons cessé de le répéter sur votre antenne. L'avenir du Congo, la capacité du Congo à se défendre, à se battre, la capacité des Congolais à monter une armée, c'est une affaire proprement nationale. Si les Congolais ne comprennent pas qu'il est de leur devoir sacré de faire tout ce qui est en leur pouvoir, gouvernant et gouverné, pour se doter d'une armée capable de défendre l'intégrité du territoire national, de protéger les personnes et leurs biens, ce n'est pas la communauté internationale qui va créer l'armée nationale à la place des Congolais et du gouvernement congolais. Donc il ne faut pas se leurrer.
Mais, alors, professeur,
par ailleurs, Oui.
Professeur, je vais vous poser une question brièvement parce qu'on tend vers la fin de l'émission. Alors, qu'est-ce que vous pensez cet accord d'Addis Abeba prévoit aussi un dialogue plus inclusif au sein dans le pays, donc un dialogue inclusif national. L'honorable Mounoubou estime que c'est déjà un raté, ces concertations nationales. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Disons que l'accord cadre prévoit effectivement qu'il y ait un dialogue entre les Congolais pour faire le point sur tout ce qui ne marche pas et voir quelles solutions. Sur le principe, je ne partage pas le point de vue de l'honorable sur l'idée qu'il n'y a pas d'inclusivité. Le principe de l'inclusivité est dans l'ordonnance présidentielle qui prévoit la majorité présidentielle, l'opposition institutionnelle, l'opposition hors institution et la société civile. Mais ce qui manque, c'est comment, à partir du moment où l'inclusivité est dans le principe, comment, quels sont les mécanismes, quels comportements, quels gestes faut-il au président de la République pour s'adresser effectivement à cette frange de l'opposition radicale qui conteste son autorité et qui, si elle ne venait pas effectivement participer à ces concertations, risque alors d'obérer la capacité de mobilisation de la nation autour du gouvernement et autour du chef de l'État. C'est là où il y a un problème. Mais ce n'est pas dans le principe de l'inclusivité est acquis parce que le principe est dans l'ordonnance. Alors maintenant, il reste la faisabilité, comment sortir du principe pour créer les conditions de ralliement, d'adhésion de l'opposition radicale et ses chefs à ce mécanisme qu'on appelle les concertations. C'est ça qui manque encore jusqu'à présent.
Merci,
parce que
professeur.
Le principe lui-même, le principe est déjà dans l'ordonnance présidentielle.
Alors, professeur, pour conclure, quel avenir pour cet accord cadre d'Addis Abeba?
L'avenir de l'accord est dans le chef de ce qu'ils ont signé. Tout à l'heure, on a parlé des responsabilités du gouvernement congolais. On a parlé de responsabilité de la communauté internationale. On a parlé de responsabilité du gouvernement de la région. Alors, si chaque parti joue sa partition, à ce moment-là, l'accord permettra effectivement d'atteindre les objectifs que les pays se sont assignés.
Merci,
et
professeur.
Si, malheureusement, comme on le voit, les pays de la région ne jouent pas leur partition, alors à ce moment-là, il appartiendra à la République démocratique du Congo et à la communauté internationale de faire ce qui est en leur pouvoir.
Merci, professeur Moïla Tchimbi. Monsieur François Mamba, votre conclusion en 40 secondes, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Quel avenir pour cet accord cadre d'Addis Abeba?
Non, la réponse a été donnée par le professeur, je ne vais pas en rajouter. Mais ce que je veux dire par rapport à l'intervenant précédent, l'honorable, c'est que, bon, évidemment, la résolution 2098, chacun peut en faire l'exégèse à sa manière. Je note simplement, en tant qu'un vieil acteur dans ces longs processus de recherche de paix en République démocratique du Congo, que lorsque au niveau international, on a voulu nommer un médiateur, que ce soit à Lusaka, que ce soit à Sun City avec Thabo Mbeki, que ce soit même maintenant.
Monsieur Mamba n'a plus beaucoup de temps, je suis obligé de vous couper.
On a nommé quelqu'un pour faire à la place des Congolais.
Merci, merci Monsieur Mamba. En un mot, honorable Juvenal.
Sur le plan interne, je demanderai à Monsieur François Mamba de mettre à la disposition de l'opinion le plan des mises en œuvre. Je demanderai aussi à Madame Merle Robinson, qui est l'envoyée spéciale, de mettre sur pied, et ça c'est à l'intention de la communauté internationale, un plan à plusieurs volets, comme c'est écrit dans l'accord au cadre d'Addis Abeba. Et je demande plus de volonté politique, plus de sagesse, surtout s'agissant d'un processus comme celui de la réconciliation.
Merci, honorable Juvenal Mounoubou. C'est la fin de cette émission. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.